RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Il y a un an, un petit groupe de jeunes gens sortait sur la place de l'Indépendance, à Kiev, pour protester contre la décision du président Yanukovych de renoncer à signer l'accord d'association avec l'Union européenne. L'hiver dernier, le pays a connu une révolution sanglante qui a abouti au renversement du président pro-russe. Et aujourd'hui, une véritable guerre se déroule dans le Donbass, l'ancien fief de Viktor Yanukovych, en partie aux mains des séparatistes. Les élections législatives du mois dernier ont confirmé le tournant pro-occidental du pays, mais ce tournant est rejeté catégoriquement par les républiques séparatistes de l'Est tournées vers la Russie. Ukraine déchirée, le point de non-retour, un grand reportage signé Anastasia Becchio, Anastasia que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Je me bats pour ma terre. Je suis d'ici, de la région de Donetsk. Je suis mineur, un simple mineur de fond. Avant, je cassais du charbon. Maintenant, je casse de l'ukrainien.
Kalachnikov en bandoulière, bonnet noir vissé sur la tête, l'ancien mineur monte la garde au barrage installé à 1 km de l'aéroport de Donetsk. Là-bas, les combats entre séparatistes et forces ukrainiennes font rage. Parfois, des obus atterrissent tout près. Deux blocs de béton, des tranchées, des sacs de sable, un feu de camp, une bouilloire noircie, une icône et un lance-roquette posé sur le sol. Tel est désormais le quotidien de ce mineur de 46 ans qui se fait surnommer Maradona.
On n'est pas là pour jouer à la guéguerre, on défend notre terre. Nous les gens du Donbass, on ne nous a jamais aimés, alors qu'on a toujours pratiquement nourri l'Ukraine. Qu'ils essayent de vivre un peu sans notre charbon, sans chauffage. Et nous on observera de loin comment ils s'en sortent sans notre Donbass. Le 11 mai, il y a eu un référendum et les gens ont décidé à plus de 90% de se séparer de l'Ukraine. Pour dire la vérité, on voudrait faire partie de la Russie. On est des Slaves, on a un esprit russe. Ici, 90% de la population est russophone. Cette explosion, c'est un obus tiré dans notre direction. Il doit être tombé à 600-700 mètres. Feriez mieux de partir d'ici. Allez plutôt voir mon commandant. Descendez là-bas et demandez le chasseur.
Installé en contrebas de la route dans un ancien garage, peint, ironie du sort, en jaune et bleu, les couleurs du drapeau ukrainien, le chasseur prend du repos avec des membres du bataillon Vostok. L'homme, affable, porte une chapka cosaque sur la tête, invite ses hôtes à boire le thé sur un grand canapé fatigué et exhibe son passeport russe. Le chasseur a fait l'Afghanistan et les deux guerres de Tchétchénie.
Je suis venu de Russie pour aider le peuple du Donbass à se battre contre ces dégâts que provoque le pouvoir de Kiev. Ici, il y a beaucoup de gens normaux qui comprennent que si on n'arrête pas cette peste, elle viendra bientôt chez nous. Moi, je ne comprends pas l'Europe. Pourquoi vous les soutenez? Vous avez vécu une guerre terrible, tout comme la Russie. Et cette peste, elle continue à nouveau de s'étendre. Pourquoi les gouvernements de France, d'Allemagne, d'Italie, pourquoi ils soutiennent le fascisme?
Sergueï, 40 ans, vient d'Ilovaïsk, dans la région de Donetsk. Il était cheminot avant de venir s'enrôler au sein des forces armées séparatistes.
Pourquoi les gens ont pris les armes? Pourquoi tout le monde s'est levé? Le Donbass voulait se développer seul. On a viré Yanukovych et on a installé Porochenko à la place. En quoi il est meilleur? En rien. On n'arrive pas à résoudre ce problème pacifiquement avec eux. Moi, je ne veux pas vivre dans cette Ukraine-là. Ça n'est pas notre Ukraine. Oui, la langue ukrainienne est une belle langue. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en prendre à ceux qui parlent le russe et les obliger à parler ukrainien.
À quelques centaines de mètres de là, le quartier Kievski. Ici, les tirs d'obus ont fait d'importants dégâts. La plupart des habitants ont fui. Nikolaï Sergeïevitch, lui, n'a nulle part où aller. Presque indifférent au bombardement tout proche, il traîne une branche au milieu d'un bloc d'immeuble désert.
Il fait très froid chez moi. Pas de chauffage, pas d'électricité. Je dors tout habillé sous plusieurs couvertures. C'est l'horreur. Ça bombarde tous les jours, tous les jours.
En survêtement rose fuchsia, cheveux blonds décolorés, les traits tirés, la voisine Ludmila Vassilievna, 60 ans, est à bout de nerfs.
Je ne sais pas qui peut arrêter cette guerre absurde, stupide, inutile. Pourquoi faut-il nous tuer parce qu'on pense différemment, parce qu'on veut garder nos fêtes? C'est pour ça qu'il faut nous tuer? Tant que ça ne tire pas, vous pouvez aller voir. Là-bas, La porte d'entrée métallique a été complètement soufflée. Cette vitre-là, le papy l'a remplacée 4 fois déjà. Plus loin, c'est carrément l'horreur. Tout est défoncé. Les fenêtres sont cassées. Les gens ont économisé toute leur vie pour s'acheter ces frigos. Porochenko arrive au pouvoir et en 6 mois, il détruit tout à Donetsk. Et après ça, il voudrait qu'on le considère comme notre dirigeant ? Moi, j'estime que si 2 familles n'arrivent pas à s'entendre, elles doivent vivre séparément. Il ne faut pas se battre. Laissez-nous tranquilles. Nous, on s'en prend pas à votre terre. On ne va pas bombarder Kiev. On vivait tranquillement ici et on veut rester là. Laissez-nous en paix.
À Kiev, le bruit de la circulation automobile a repris ses droits sur la place de l'indépendance. De la révolution de l'hiver dernier, il ne reste plus que quelques vestiges, des hôtels improvisés et des cierges qui forment les mots « Gloire à l'Ukraine ». Dans les cafés alentours, la vie bat son plein. C'est dans l'un d'eux qu'Oksana Yarmichina rencontre régulièrement des gens arrivés comme elle récemment de la région de Donetsk.
J'avais des magasins de vêtements pour enfants, mais ils n'existent plus. Ils ont tous été incendiés. Nous avons tout perdu. Quand je suis partie de là-bas pour Kiev, je savais que c'était pour toujours. Je comprenais que moralement, il me serait impossible de revenir là-bas. Je ne pourrais pas repartir vers des gens qui ont crié à ma mère qu'elle était fasciste. Mon père et ma mère sont originaires de l'Ukraine de l'Ouest, mais ils ont quitté cette région quand ils étaient jeunes. Ils ont passé 45 ans à Donetsk. Et quand j'ai vu que des voisins qui étaient amis avec mes parents se sont mis à les insulter et à traiter ma mère de fasciste, ça m'a fait un grand choc. Et j'ai compris que je ne pourrais plus cohabiter avec ces gens-là.
Comme Oksana, Gennady, venu à Kiev en août avec femme et enfants, est un patriote ukrainien. À Donetsk, il a dû abandonner son entreprise d'informatique, mais la vie à Kiev est loin d'être facile.
Tu appelles un agent immobilier, il te demande quelle surface tu cherches, pour combien de personnes, etc. À la fin, il te demande « Vous venez d'où ?» Tu réponds « De Donetsk ». Il dit « Ah, ok ». Et il ne rappelle jamais. Il y a toujours eu cette méfiance envers les gens de notre région, parce que notre élite criminalisée, pendant des années, elle est venue faire sa loi à Kiev. Elle venait s'accaparer des propriétés dans le centre historique. Ça s'est accentué avec l'arrivée au pouvoir de Yanukovych. Il a fait le ménage et a installé ici des fonctionnaires de la région de Donetsk. C'est pour ça qu'il y a une telle réaction.
Selon les statistiques officielles, quelque 320 000 habitants de l'Est sont allés trouver refuge ailleurs dans le pays. Dans les faits, ils sont sans doute beaucoup plus nombreux. Absence de véritable plan d'aide de la part de l'État, chômage, préjugés des gens de l'Ouest envers ceux de l'Est russophone, autant de facteurs très dangereux selon Oksana.
Cette absence de perspective pousse des gens qui avaient fui ces régions à y revenir. Et ils partent d'ici avec un sentiment de haine vis-à-vis du pouvoir ukrainien. Et ça, c'est terrible. Je voudrais essayer de changer ça. De Kiev, je vais tenter de faire mon possible pour changer les relations entre les diverses régions.
Changer ces relations entre les régions d'Ukraine, c'est aussi l'idée qu'a eue Olga Sagaïdak en organisant dans l'un des musées de Kiev le forum Don Kult. Exposition de tableaux, lecture de poèmes, concerts d'artistes venus du Donbass.
Ici, dans cette salle, on organise des concerts, des lectures, des rencontres. Le but de ce forum est de montrer le potentiel intellectuel du Donbass. Il y a là-bas énormément de personnes talentueuses et fantastiques qui ont beaucoup fait, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde. Ici, les gens voient chaque jour des images effrayantes d'une région en stagnation où des monstres munis de fusils automatiques font leur loi. C'est vrai que ça existe, mais il y a aussi, par exemple, des musées exceptionnels. Et il y a des gens qui travaillent dans ces musées, qui ne touchent plus de salaire depuis 6 mois, mais qui continuent de protéger les collections comme la prunelle de leurs yeux. Ces gens, il faut aussi en parler. Hier, on a eu des musiciens, un compositeur et un pianiste. Ils sont venus de Donetsk et ils sont repartis à Donetsk. Ils sont ukrainophones, ce sont de vrais patriotes, mais ils habitent là-bas, ils composent là-bas. Et il n'est pas question qu'ils quittent leur région. Bref, on s'est mis à aimer le Donbass et on comprend qu'il ne faut pas le céder comme ça, sans se battre.
S'il y a une ville d'Ukraine qui observe attentivement le Donbass, c'est bien Dnipropetrovsk, à 250 km au nord-ouest de Donetsk. Depuis la chute de Yanukovych en février, l'administration régionale est dirigée par l'oligarque Igor Kolomoïski, troisième fortune du pays, qui finance sur ses deniers personnels plusieurs milices d'autodéfense qui se battent contre les séparatistes.
C'est notre entrepôt. Le passage est un peu étroit. On a reçu pas mal de choses. Ces lampes à UV sont destinées à nos hôpitaux de campagne. On va les emmener bientôt sur le front.
À côté des lampes, deux générateurs, des sacs de couchage, des vivres. Dans l'entresol d'un immeuble de Dnipropetrovsk, Maxime a installé son centre de collecte. Ce jeune entrepreneur consacre son temps libre à ramasser des vivres, des médicaments et de l'équipement pour le front ukrainien. Après plus de 6 mois de conflit, les dons continuent d'affluer, mais il y a aussi de mauvaises surprises.
L'autre jour, par exemple, on a rapporté une grosse cargaison de gilets pare-balles en train. J'ai demandé à la gare qu'elle nous donne un véhicule électrique pour les emmener jusqu'à notre voiture. On m'a répondu « Vous devez payer ». Il fallait payer 100 grivna pour faire 100 mètres. Or, avec 100 grivna, tu vas jusqu'à l'autre bout de la ville. J'étais indigné, mais on m'a dit « On n'en a rien à faire ». L'une des responsables était une femme. J'ai essayé de jouer sur la corde sensible, mais je n'ai eu que de l'incompréhension et de l'agressivité en retour. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiques envers ce qu'on fait. Prenez cet immeuble de 9 étages. Ici, il y a 2 patriotes qui affichent leurs idées. Le reste se tait, mais on sait que ce ne sont pas des patriotes. Et là, tu prends conscience que ce sont tous des séparatistes potentiels. Et ça, ça fait un peu peur.
Dans son bureau de l'administration régionale de Dnipropetrovsk, où des hommes armés montent la garde, Boris Filatov, le vice-gouverneur, fulmine. Le mois dernier, contre toute attente, d'anciens alliés de Yanukovych, transfuges du Parti des régions, sont arrivés en tête ici aux élections législatives.
Il y a 2 Ukraines qui existent dans 2 mondes parallèles. Il y a l'Ukraine sacrificielle, passionnée, héroïque, l'Ukraine des volontaires, des militants engagés, des pro-européens. Et puis il y a l'Ukraine qui regarde vers le passé, qui est indifférente. Et la fronde qui a gagné l'Est, elle tente de toucher ces gens. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés, à faire semblant qu'il ne se passe rien. Si nous n'avions rien fait, les bombes seraient en train de tomber ici. Pourquoi Poutine nous montre-t-il sans cesse à la télévision ? On dit de nous qu'on est des nazis, des fascistes, des espions américains. Mais finalement, on est fiers parce que ça signifie qu'on compte. Il faut savoir que si Dnipropetrovsk était tombé, l'Ukraine se serait effondrée comme un château de cartes.
À Dnipropetrovsk, l'élan patriotique est très visible à l'hôpital régional. C'est là qu'arrivent chaque jour des blessés du front. À l'entrée de l'établissement, un local a été cédé aux volontaires où des dons continuent d'affluer. Fine barbiche à la cosaque, trident ukrainien fixé sur le bracelet de sa montre, le docteur Yuri Skrepets a soigné des centaines de militaires et surtout des combattants des bataillons de volontaires.
L'hôpital Metchnikov est l'un des plus grands d'Ukraine, c'est aussi l'un des plus anciens. Nous avons presque 220 ans. Ici, on nous envoie énormément de blessés. En 6 mois, la région a accueilli plus de 5000 blessés. Je vais vous emmener dans le service des polytraumatisés. C'est là qu'on accueille les blessés les plus graves. Le responsable vous expliquera tout.
Ces 4 derniers mois, on a soigné ici 150 combattants. Ils étaient tous grièvement blessés. Pour chacun d'entre eux, il a fallu se battre pour les garder en vie. Dans cette pièce, on a 2 blessés. Vadik, qui malheureusement ne peut pas parler parce qu'il a un tuyau dans la trachée pour respirer, mais on arrive quand même à communiquer. Il se prépare à être transféré dans un autre service où on lui fera de la chirurgie faciale. Et là, on a Kirill de Kharkiv. Il a été grièvement blessé par un obus lors d'un combat à Mariupol. Il a des blessures multiples, il a déjà subi plusieurs opérations.
Les yeux cernés, Kirill, 30 ans, est recouvert d'un drap jusqu'au menton. Cet ingénieur en informatique s'est porté volontaire pour rejoindre le front ukrainien en juin dernier.
J'ai le sentiment que c'est une guerre entre le nouveau et l'ancien. Il y a une cassure entre ceux qui comprennent que le pays est au bord de la banqueroute et qu'il faut d'urgence changer le système soviétique et ceux qui veulent que les choses restent en l'état. Il ne s'agit pas d'une démarcation géographique, mais d'une démarcation mentale. Et elle n'existe pas uniquement dans les régions où il y a la guerre. Simplement, là-bas, on a vu arriver des forces spéciales, des renforts de Russie. Et ça, c'est primordial, à mon sens. Prenez les dernières élections législatives. À Kharkiv, sur les 14 députés élus, un seul est nouveau. Et c'est la même chose dans beaucoup de villes à l'Est. Le bloc d'opposition, c'est-à-dire l'ancien parti des régions, est passé. Nous comprenons que ces humeurs sont toujours présentes dans la société, mais partout où on a réussi à empêcher que des hommes armés s'emparent du pouvoir, on a réussi à stopper ça. Pour moi, cela signifie que si ces hommes armés n'étaient pas venus dans le Donbass, on vivrait tous en paix.
Depuis le mois d'avril, le conflit entre forces gouvernementales et rebelles pro-russes a fait plus de 4100 morts dans l'est de l'Ukraine. L'Ukraine déchirée, le point de non-retour, un grand reportage d'Anastasia Becchio et Boris Vichit, réalisation Marc Minatel.
Anastasia Becchio, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. La guerre dans le Donbass continue de faire chaque jour des victimes. On entend dans votre reportage des gens qui en veulent terriblement au pouvoir ukrainien. Ça s'explique comment ?
Alors, les plus remontés sont ceux qui habitent près des zones de combat. Ces gens sont persuadés que c'est l'armée ukrainienne qui tire des obus sur leur maison. Alors, des organisations de défense des droits de l'homme ont fait état de tirs des forces ukrainiennes dans les quartiers d'habitation et dénoncé l'usage de bombes à sous-munitions par l'armée ukrainienne. Mais ces mêmes ONG mettent aussi en cause les séparatistes et conviennent qu'il est impossible, en fait, de déterminer l'origine de la plupart des attaques. La colère vient aussi du fait que Kiev ne paye plus les retraites et les aides sociales. Et puis dans cette région très paternaliste, il n'y a pas eu de main tendue de la part de Kiev au début des troubles. Au contraire, il y a eu une série de déclarations inquiétantes comme cette volonté de retirer aux Russes son statut de langue régionale. Même si la loi n'a pas été adoptée, ça a été une brèche dans laquelle s'est engouffrée la propagande russe. Et ça reste aujourd'hui encore un thème central, tout comme l'histoire de l'Ukraine, un sujet tellement sensible que les nouvelles autorités séparatistes ont décidé de suspendre cet enseignement dans les écoles.
Alors qu'en est-il dans les autres régions du Donbass, contrôlées par Kiev et dans les régions limitrophes ?
Dans les régions récemment libérées, il est encore trop tôt pour savoir vers qui vont les sympathies. La population n'aspire qu'à une chose, c'est la paix. On avait coutume de considérer que l'Ukraine était en gros coupée en deux, l'Ouest ukrainophone et pro-européen, et l'Est russophone tourné vers la Russie. Lors des élections, c'est en général le centre qui faisait la différence. Mais depuis les récents événements, les lignes ont bougé. Il y a les régions occupées par les séparatistes, qui représentent quelque 2 à 4% du territoire, et le reste du pays qui a accordé une large majorité aux forces pro-occidentales lors des législatives du mois dernier. Mais là encore, il y a des nuances. Dans des villes comme Dnipropetrovsk, le sentiment patriotique est très fort. On voit des drapeaux ukrainiens dans les rues, sur les voitures. Mais dans le même temps, on constate que c'est le parti d'opposition, c'est-à-dire l'ancien parti des régions de Viktor Yanukovych, qui est arrivé en tête.
Alors, est-ce qu'il existe toujours un risque d'expansion des idées séparatistes ?
Plusieurs experts que nous avons rencontrés disent que le risque existe. Beaucoup dépend évidemment de la situation militaire. Et là, il y a une grande part d'inconnus. Et si on prend des villes russophones comme Kharkiv ou Dnipropetrovsk, toutes deux ont connu des tentatives de soulèvement séparatiste ces derniers mois. À Kharkiv, il s'en est fallu de très peu pour que les pro-russes ne déclarent leur république populaire sur le modèle des républiques voisines de Lugansk et Donetsk. L'adjoint au gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, que l'on a entendu tout à l'heure, nous a confié qu'à un moment, il a même armé les militants pro-Maïdan pour qu'ils empêchent les pro-russes de s'emparer des locaux de l'administration régionale. Et aujourd'hui encore, le bâtiment est gardé par des hommes en armes.
Ce sera le mot de la fin. Reportage à réécouter en intégralité sur
RFI.fr.
Anastasia Becchio, merci beaucoup. Bonne journée.